avez raison, j'allais le faire, mais c'est très bien comme ça. Je vais essayer de vous exposer en quelques... en une petite heure, une heure environ, en tout cas, ce qui est aujourd'hui le fruit d'une recherche qui est commencée depuis longtemps, mais qui n'est pas terminée. Et c'est la raison pour laquelle, il y a certains moments, on va balayer un morceau d'histoire d'une manière un peu plus vite, un peu plus rapide que d'autres. Néanmoins, l'exposé que je vais vous faire est centré sur Clairvaux, bien évidemment. Pourquoi Clairvaux ? Parce que, et j'espère que j'arriverai à vous le montrer, Clairvaux n'a pas inventé le vignoble de notre région, mais je crois qu'il l'a complètement transcendé. C'est-à-dire que c'est à partir de Clairvaux que les choses se sont considérablement développées et qu'aujourd'hui encore, il y a peut-être autour de Clairvaux et de la vigne une collaboration possible. C'est ce que ça sera d'ailleurs ma conclusion, dans la mesure où, au moment où des difficultés non négligeables apparaissent en ce moment dans la région de Bar-sur-Aube, par les diminutions des activités industrielles, et notamment l'une qui est tout à fait liée à Clairvaux, puisque c'est celle de Bayel. Chacun ne le sait peut-être pas, mais Bayel a été implanté au XVIIe siècle par Colbert parce que les moines de Clairvaux pouvaient alimenter les fours en bois. Sans Clairvaux, il n'y aurait pas eu Bayel. Et les forges de Clairvaux, qui ont été fermées il y a maintenant 15 ans, ont été en leur temps un des pôles majeurs de la sidérurgie au Marnaise, au Boise. Et que tout ceci, bien évidemment, il faudra ne pas s'en... Il ne faudra pas l'oublier, et c'est peut-être par l'alliance du tourisme claravalien et du vignoble qui existe encore heureusement, et qu'on pourra perpétuer cette histoire traditionnelle de notre région. Il y a une légende qui court, en tout cas. Ce sont les moines de Clairvaux qui ont implanté la vigne dans la côte des Barres. C'est faux. Et auraient même inventé le champagne. Il a toujours une part de vérité dans les légendes, mais je crois qu'il suffit à la gloire de Clairvaux d'avoir somptueusement développé l'héritage d'une tradition viticole issue du monde romain et d'avoir créé un modèle économique pour la région. Je vais commencer quand même par vous parler des origines de la vigne en général, parce que souvent, on ne le sait pas trop, on confond les siècles romains et les siècles gaulois, et parce que on verra que la vigne n'est pas arrivée immédiatement en Champagne. On peut se rappeler quand même que les premiers pieds de vigne, adaptés au climat méditerranéen, parce qu'il fallait quand même que ça soit adapté au climat où la vigne ne peut pas pousser partout, furent plantés par les colons grecs qui occupèrent les collines de l'antique Massilia, c'est-à-dire Marseille. Et ça s'est passé 600 ans avant Jésus-Christ. Cette vigne qui arrivait à ce moment-là, n'était pas la vigne naturelle, qu'on appelle Vitis sylvestris, qui est une vigne sauvage, qui existait dans les monts du Caucase, et qui était connue depuis très très longtemps par nos ancêtres, qui grignotait les petits grains de vigne qui apparaissaient naturellement dans les forêts. On peut penser que les premiers grains de vigne ont été maturés par les premiers hommes, et peut-être 20 000 ou 30 000 ans avant Jésus-Christ. La vigne dont on parle, nous, c'est la Vitis vinifera occidentalis, qui, partie du Caucase, a été maîtrisée, notamment par les Grecs, les Égyptiens et les Mésopotamiens. Et ces Mésopotamiens, ces Égyptiens et ces Grecs furent sans doute les premiers à vinifier un raisin cultivé pour le vin. Et c'est Rome qui va développer, surtout autour de la Méditerranée, cette invention du raisin devenu vin. La Gaule était très loin de tout cela. La Gaule était très loin de tout cela parce que le climat de la Gaule ne permettait pas de pouvoir cultiver le raisin, le fameux raisin adapté au monde méditerranéen. Il faisait trop froid dans trop de saisons, et entre parenthèses, on le voit bien en ce moment. La vigne, pour être implantée dans nos régions, il fallait qu'elle soit adaptée à ces régions. Donc la Gaule ne connaissait pas encore le vin, Et d'ailleurs, les Gaulois ne connaissaient surtout la Sermoise et l'hydromel. Et Rome, notamment grâce aux sénateurs romains qui étaient propriétaires de grands domaines, eh bien, exportait à des prix très élevés des vins blancs saturés de sucre vers la Gaule, parce qu'il s'était aperçu qu'une riche clientèle gauloise, eh bien, adorait le vin. Et si vous avez des restes d'amphores dans notre région champenoise, quelquefois dans des fouilles que l'on peut faire, eh bien, ça témoigne de cette consommation locale de vin romain, mais ça ne témoigne pas que ce vin était produit en Gaule. Diodore de Sicile, qui est un chroniqueur contemporain de César, au moment où César a fait la conquête de la Gaule, a rapporté que la passion des Gaulois était telle, pour le vin, que les prix flambaient, et on donne le mauvais exemple d'une amphore de vin qui a été troquée par un Gaulois contre un esclave. Rome, finalement, n'apporta la vigne et la vinification en Gaule qu'avec l'occupation commencée en 122, dans sa province narbonnaise et dans ses petits prolongements, qui étaient la vallée du Rhône jusqu'à Vienne. C'est le fameux vin qui sera plus tard la côte rôtie et le vin de l'Ermitage. Et un petit peu, du côté de l'Aquitaine, c'est le fameux vin de Gaillac. Vienne et Gaillac, les deux petits pôles romains qui sont implantés au 1er siècle. Encore fallait-il être citoyen romain pour avoir le droit de créer un domaine viticole et ne pas concurrencer les vins italiens. C'est ainsi qu'à la fin du 1er siècle de notre ère, en l'an 92, un édit de Domitien imposa même l'arrachage de 50% des vignes qui avaient été plantées dans cette période méridionale de la Gaule, parce qu'il ne fallait pas concurrencer les productions italiennes. L'engouement pour la vigne avait fâcheusement réduit les surfaces céréalières, d'ailleurs, en même temps qu'on en avait effectivement fabriqué trop à cause de cette passion viticole. Le blé constituait la base de la nourriture des Gaulois et il fallait bien que les Gaulois subsistent. Il faudra attendre le 3e siècle, exactement en l'an 276, pour que l'empereur Probus autorise les Romains, ainsi que les Gaulois libres, qui étaient devenus citoyens romains depuis Caracalla en 213, c'est-à-dire au début du 3e siècle, pour planter de la vigne. Celle-ci put se répandre vers le nord. Pourquoi ? Parce que de nouveaux cépages adaptés aux régions du climat continental, qui est le nôtre, avaient été expérimentés. Expérimentés où ? Dans la région Allobroge de Vienne. La région Allobroge, c'est le Bas-Dauphiné. C'est le Bas-Dauphiné d'aujourd'hui. Et finalement, ce plant, on l'a appelé l'Allobrogica. C'était l'ancêtre de notre Pinot d'aujourd'hui. Grâce à la facilité du transport fluvial entre le Rhône, la Saône et la Moselle, ce plant gagna la Bourgogne. Une première mention de l'Allobrogica est donnée en 313 par Brodel, qui était un grand historien qui a travaillé sur l'évolution de l'agriculture et sur bien d'autres choses aussi dans notre France, grâce à son grand livre sur l'identité de notre pays. Et le plan Allobrogica gagna même Trèves, ce qui est vraiment la pointe extrême de son expansion vers le nord. Pourquoi ? C'était d'ailleurs une exception, parce qu'il y avait une forte présence de garnisons romaines à Trèves et ils ne voulaient pas se priver de vin. La vigne se répandit également vers la façade atlantique à ce moment-là, à partir en particulier de Gaillac. Gaillac, vous voyez où c'est, vers Bordeaux. Et parce qu'un nouveau cépage avait été également trouvé, adapté à la pluie et au vent, et il s'appelait le Biturica. C'est l'ancêtre de notre Cabernet. C'est lui qui permit aux vignerons de Gaillac de pousser leur vignoble jusqu'à Bordeaux. Un peu plus tard, c'est-à-dire au début du IVe siècle, la vigne a gagné l'Auxerrois, puis Paris et ses collines, et un peu plus tard, la vallée de la Loire, l'Alsace, la Champagne, d'Épernay et de Reims, le Soissonnais. Et la Côte des Barres dans tout ça ? Eh bien, les historiens sont souvent muets sur la Côte des Barres, et on peut par analogie penser que le cœur de notre région a été à peu près a connu la viticulture en même temps que l'Auxerrois, c'est-à-dire au début du IVe siècle. Cette relative difficulté à donner une chronologie précise de notre viticulture, de l'origine de notre viticulture, vient paradoxalement d'une qualité extraordinaire qu'avaient les Gaulois et que les Romains ne connaissaient pas, c'était l'utilisation du tonneau. Car les Gaulois avaient inventé le tonneau dès le 1er siècle après Jésus-Christ, et ce tonneau, ils l'utilisaient naturellement pour la bière et pour l'hydromel qu'ils fabriquaient, ils l'utilisaient aussi pour le vin qu'ils importaient, mais l'inconvénient du tonneau, l'avantage du tonneau, c'est qu'il roule très bien, on le transporte facilement, on le met sur des charrois, on a d'ailleurs des preuves de tout cela sur des sculptures de cette époque, mais l'inconvénient du tonneau, c'est qu'il est biodégradable. Et comme il est biodégradable, eh bien, les archéologues ne trouvent pas de traces de cette viticulture gauloise qui était fabriquée à un moment où on transportait les résultats de cette viticulture dans des bois pétrissibles, disons. Et malgré tout, ils étaient quand même, ils ne duraient que le temps d'un morceau de bois. Autrement dit, cette qualité des Gaulois d'avoir inventé non seulement le tonneau, mais également le grand charrois à quatre roues, car les Romains ne connaissaient que le charrois à deux roues, eh bien, ça s'est retourné contre l'histoire même de la viticulture gauloise. Donc, nous sommes au début du IVe siècle. Et qu'est-ce que c'est que ce IVe siècle ? Eh bien, c'est le temps où l'empereur Constantin, l'empereur romain Constantin, a renvoyé Bacchus, le dieu romain Bacchus, dans l'Olympe, parce qu'il avait accepté que le christianisme se développe et devienne la religion d'État après son fameux édit de Milan de 313. Et cette nouvelle religion officielle que le monde romain allait implanter, eh bien, cette nouvelle religion qui n'était connue jusqu'alors que dans le Moyen-Orient, eh bien, apportera le vin, car c'est un instrument de l'office divin pour célébrer, sous les deux espèces ainsi que vous le savez, le mystère de la consécration. Et ce sont paradoxalement les évêques qui se firent propriétaires de vignes et quittant la vie cachée qu'ils menaient au sein du monde romain, eh bien, ils se sont mis à devenir viticulteur et à cultiver le vin pour la messe, bien évidemment, mais aussi pour quelque chose qu'ils ont développé beaucoup à cette époque, c'est l'accueil des visiteurs de marque par l'offrande du vin. Et petite parenthèse, je vous signale quand même que nous ne le savons peut-être pas tous les jours quand nous le faisons, mais à chaque fois que nous faisons un vin d'honneur, eh bien, nous ne faisons rien d'autre que de perpétuer une tradition que les évêques de l'époque avaient mis en œuvre. On offrait le vin pour fêter un événement, et notamment l'accueil d'un arrivant. Les chapitres des cathédrales, et puis quelques seigneurs locaux et même des bourgeois, possédèrent d'importants vignobles, et ils les possédèrent où ? Dans les villes et autour des villes. Parce que paradoxalement, il n'y avait pas de vignes dans les campagnes. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le système social de l'époque fondé sur le servage n'induisait pas de très bonnes conditions de production, et surtout parce que les moyens de transport de l'époque étaient très difficiles. Donc c'est paradoxalement dans les vignes que le vignoble s'est développé. Et cette situation va perdurer d'ailleurs pendant des siècles. Et si je vous dis que, par exemple, à Paris, eh bien, au XVIIe siècle, pour citer un exemple qui va frapper, eh bien, il y avait encore une vingtaine de clos pour une production annuelle de 14 000 nuits, soit 35 000 hectos de vin à Paris au XVIIe siècle, à l'intérieur du Paris intramuros, pas du tout dans la banlieue. Et aujourd'hui encore, pour ne rien vous cacher, il reste encore un certain nombre de petits vignobles à Paris. C'est la survivance de ce que je viens de vous dire. Mais au IVe siècle, il n'y a pas eu que les évêques. Est arrivé en même temps les moines. Pourquoi il y a eu des moines au IVe siècle ? Parce que cette religion d'État dont je viens de vous parler, elle a embourgeoisé un tout petit peu le monde romain. Et puis, finalement, de bourgeoisie en bourgeoisie, ce monde romain, eh bien, a abandonné un peu les pratiques religieuses les plus difficiles. Un certain nombre de gens se sont dit, il faut témoigner de la pureté évangélique, on va s'enfermer dans des monastères. Qui dit monastère dit loin des villes, dans le désert. Les premiers monastères dans le désert étaient en Égypte, et on va implanter, bien évidemment, des vignes à côté des monastères. Et ce sera l'implantation des premières vignes en zone rurale grâce au monastère. Et le premier monastère dont on cite toujours, qu'on cite toujours en exemple, c'est celui du Ligugé à côté de Poitiers, en 360 après Jésus-Christ, par le fameux Saint-Martin, dont on dit qu'il est le précurseur de la taille de la vigne, puisque la légende veut que son âne ait brouté les sarments excédentaires des vignes qu'il avait plantées. Et du coup, il s'est aperçu qu'en broutant les sarments excédentaires qu'il avait plantées, il obtenait des rendements meilleurs. Donc Saint-Martin est devenu, d'une manière légendaire, l'inventeur de la taille de la vigne. Dans notre région, la disparition progressive de la paix romaine sous les vagues successives des envahisseurs, et alors on en a eu beaucoup, on a eu les Francs en 253, on a eu les Vandales qui ont démoli Bar-sur-Aube en 407, et on a eu les Huns en 451, tout cela n'a laissé aucune trace des grands domaines et encore moins d'éventuels vignobles. La présence monastique avait quand même été réelle dans notre région avant l'arrivée des grands moines comme Clairvaux, puisque à Saint-Oyant, le monastère de Saint-Oyant, qui est celui de Saint-Claude, avait implanté quelques prieurés dans la région, et notamment Saint-Germain. Saint-Germain à Bar-sur-Aube était un prieuré du monastère de Saint-Oyant du Jura, et il y avait planté naturellement des vignes sur la colline Saint-Germain. Et la grande abbaye bénédictine de Montirandère, qui fut créée en 673, puis celle de Montiramé, on en reparlera à propos de Ville-sur-Ars tout à l'heure, qui fut implantée en 837, naturellement eurent besoin de vignes, et elles eurent des vignes autour de leurs murs d'enceinte. Voilà comme ça que comment nous arrivons au Moyen Âge central, c'est-à-dire à la réforme grégorienne, c'est-à-dire au Xe siècle, grande période où le pape dit il faut que nous réformions l'Église et que tout le système qui a été appliqué jusque-là devienne novateur et que les moines notamment, redeviennent dans leurs abbayes et appliquent à nouveau une pureté évangélique qui avait été un peu perdue. Ces fameux moines qui vont revenir à partir du 9e et 10e siècle, appliquaient tous une règle qui est la règle de Saint-Benoît. Et la règle de Saint-Benoît, elle n'était pas... Alors, je pense qu'il faut peut-être qu'on passe quelques photos. Voilà, c'est très bien. C'est le mont Cassin, on va y arriver. Ces premiers moines qui arrivent dans l'Europe occidentale appliquent tous des règles qui sont presque semblables. Qu'est-ce que c'est quoi un moine ? Un moine, c'est un personnage qui prie, il est loin de tout, s'il veut manger, il faut bien qu'il cultive la terre, donc il faut qu'il travaille. Laborare, travailler, orare, prier, toutes les règles monastiques sont à peu près fondées sur ces deux principes. Il n'en reste pas moins vrai qu'on peut... on a retrouvé au moins 25 ou 30 règles différentes. Et c'était des différences sur des détails. Finalement, un moine, au VIe siècle, à 530, au Monte Cassino, je crois que c'est effectivement ce qu'on appelle le Mont Cassin en français, au sud de l'Italie, s'est dit qu'il serait intelligent de rédiger une règle, la règle monastique. Il la rédige afin que ses moines puissent la consulter en permanence. Et comme il y avait des vignes sur les collines qui étaient environnantes, il s'est intéressé au vin. Et il y a un chapitre entier de la règle qui est consacré à la question du vin. Et je résume en deux mots, parce que je vois déjà qu'il y a 18 minutes de passé sur une heure que je vais devoir combler. Et il le dit, chacun a reçu de Dieu une personnalité différente. Il y en a qui aiment le vin, d'autres qui ne l'aiment pas. Nous pensons que le vin n'est pas bon pour le moine parce que, à force de boire, le vin fait apostasier même les sages. Apostasier, ça veut dire renoncer à la prière évangélique. Mais il ajoute, toutefois, ayant égard au tempérament des moines les plus faibles, nous pensons qu'une émine de vin par jour suffit à chacun. Alors c'est important parce que ça veut dire que tous les moines d'Occident qui vont devenir petit à petit moines bénédictins, auront droit quand même à une émine de vin par jour. C'est-à-dire que les moines ne vont pas se contenter de faire le vin de messe, de faire le vin de l'accueil des visiteurs, mais également de la consommation pour eux. Et ils vont même être tolérants avec les convers, c'est-à-dire leurs serviteurs monastiques, pour qui le vin est une calorie, ce sont des calories qui s'ajoutent à la nourriture. Donc les moines ne vont pas renoncer au vin, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Ce qui est très important, parce que les moines vont devoir s'accrocher à la culture de la vigne, et comme ils avaient l'ambition de tout faire bien, eh bien ils ont essayé de le faire dans la perfection. Je vais passer sur les commentaires de la vie que je fais quelquefois quand les conférences durent 2 heures. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi les moines vont tous appliquer cette règle de Saint-Benoît. Et bien, ils vont appliquer cette règle de Saint-Benoît parce que Charlemagne avait compris que la plupart des monastères avaient été créés avec le soutien des princes locaux et qu'avec le soutien des princes locaux, ces monastères étaient devenus petit à petit des courroies de transmission du pouvoir. C'est-à-dire que dans le grand empire romain germanique dirigé par Charlemagne, eh bien, faire passer les ordres et les messages, ce n'était pas commode. Mais il y avait beaucoup de monastères. Et les monastères, ils étaient soucieux, effectivement, de garder bon contact avec les princes. Eh bien, Charlemagne a eu l'idée absolument extraordinaire que son fils, lui, le Pieux, a appliqué. Tous les moines appliqueront la règle de Saint-Benoît, tous intégralement, et ils seront tous bénédictins. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être entendu, il y a quelques années, que le Conseil de l'Europe a dit que Saint-Benoît avait été le père de l'Europe. Indirectement, par le biais de la règle de Saint-Benoît, une unité religieuse et politique allait régner sur l'Europe. Les cisterciens dans tout ça, pourquoi les cisterciens? Eh bien, c'est parce que ces fameux bénédictins, qui étaient quand même très liés, comme je viens de vous le dire, au pouvoir, avaient un petit peu oublié, quelquefois un peu trop, qu'il fallait travailler et se contenter de prier. Et ils arrivaient à vivre très bien, parce qu'ils avaient des dons considérables. Et finalement, vous savez sans doute, sans le savoir tous, qu'ils appliquaient une glorification de Dieu par l'art et qu'ils avaient oublié à prier. Alors ce grand siècle, 9e, 10e, 11e siècle, ces trois grands siècles, après Charlemagne, vont devenir formidablement splendides artistiquement et on va avoir Moissac, Vézelay, toutes les grandes abbayes bénédictines que vous connaissez dans le Massif central, où il y a des tympans glorieux, où il y a des sculptures splendides, des vitraux étonnants, des fresques, glorification de Dieu par l'art, et on oublie de travailler. On oublie de travailler. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un pape qui s'insurge contre ça, et Saint Bernard va en être un de ses fidèles, j'arrive à Saint Bernard, et qui dit qu'il faut revenir à la règle de Saint Benoît dans sa pureté, dans sa rectitude. Et à côté de Troyes, à Montier-la-Celle, il y a un moine qui s'appelle Robert de Molem, qui dit, qui deviendra Robert de Molem, qui dit, moi je vais appliquer la règle. Puisqu'on me demande d'appliquer la règle bénédictine dans sa rectitude, ben, je vais le faire. Et je vais le faire à Molem, pas loin d'Hérissé. Et les moines ne sont pas d'accord. Les moines ne sont pas d'accord, ils trouvent que c'est beaucoup mieux de vivre comme ils vivaient avant. Donc il va un peu plus loin, et il s'en va à Citeaux, en Bourgogne. Il s'en va à Citeaux, et là, il est soutenu par le duc, et surtout, il y a des jeunes nobles qui trouvent que c'est formidable, que, après tout, c'est un challenge formidable que de revenir à la pureté évangélique. Et parmi les jeunes nobles, il y a Bernard. Bernard de Fontaine, qui est un personnage considérable, qui est certainement plein de talent, et peut-être un peu ennuyeux pour son père abbé, parce qu'il devait sans doute rouer un peu dans les bourrages, et lui dit, eh ben, va donc implanter une filiation dans un coin, il y en aura 4 des filles, Pontigny, à côté de Saint-Florentin, Morimont à côté de Chaumont, La Ferté à côté de Chalon-sur-Saône et Clairvaux. Et voilà qu'arrivent effectivement les 4 premières filles d'une abbaye bénédictine qui cherche à se rénover. Elle va tellement se rénover, elle va tellement implanter de filiation qu'elle va devenir un ordre. Puisque c'est Citeaux qui avait été à l'origine, elle va s'appeler l'ordre cistercien. Et cet ordre cistercien, vous l'avez compris, ce sont simplement des bénédictins qui appliquent la règle de Saint-Benoît à la lettre. mais ils sont très différents des autres. Ils travaillent et ils vont devenir, évidemment, des viticulteurs, des laboureurs, des industriels exemplaires. Ils vont être exemplaires dans toutes leurs fonctions. Et notamment parce que ils vont faire une révolution dans le mode de production médiéval. Le mode de production médiéval était fondé sur une aberration totale. Il était fondé sur ce qu'on appelle les trois ordres de la féodalité. Il y avait les seigneurs qui protégeaient les humains contre les voisins, contre la peur du voisin. Et ça les entraînait à guerroyer à longueur de journée. Il y avait les moines qui priaient pour lutter contre la peur de l'enfer. Et puis il y avait les agriculteurs qui travaillaient pour lutter contre la faim, la peur de la faim. Et ce système où chacun était dans son rôle, eh bien, était le plus mauvais qui soit. Les seigneurs s'en fichaient complètement de traverser les céréales, même quand elles n'étaient pas fauchées. Les moines n'avaient strictement aucune raison de cultiver quoi que ce soit, puisqu'ils étaient nourris par les paysans. Et les paysans, qui s'en tiraient très mal, avaient au mieux la possibilité, effectivement, de nourrir l'ensemble de la terre pendant une année, et il y avait régulièrement des famines. La grande invention des cisterciens, ça va être de se dire, après tout, puisque nous sommes enfermés au monastère, on ne va pas seulement prier, puisqu'on nous oblige à travailler, on va essayer de le faire directement. Et ils introduisent le faire-valoir direct. C'est-à-dire que pour la première fois, ce sont des moines qui vont eux-mêmes travailler. Ils vont se faire aider par les convers, c'est vrai. Ils vont recruter des paysans pour les aider. Il n'en reste pas moins vrai que cette production nouvelle, elle va être faite sous l'autorité de moines de cœur qui sont des intellectuels, qui mettent leur intelligence au profit de l'organisation, et ce faire-valoir direct va aboutir à des tas de réformes. L'assolement triennal est né des cisterciens. Le charrue va devenir aversoir. Le cheval va être avec un collier et non plus sanglé au-devant de sa poitrine pour l'empêcher de respirer. On va donc... D'ailleurs, j'ai dit les choses dans de mauvais ordre, car ce que je viens de dire va aboutir à l'assolement triennal. Parce qu'une charrue meilleure tirée par un cheval à la place d'un bœuf, ça permet d'aller plus vite, et on peut enfin faire l'assolement triennal. Et l'assolement triennal, c'est 50% de production en plus sur les mêmes terroirs. Donc c'est ça la révolution cistercienne. Eh bien, la sculpture de la vigne va s'intégrer dans cette organisation nouvelle de la production créée par les cisterciens. Saint Bernard avait quand même son idée sur la vigne. Alors Saint Bernard, il arrive donc en 1115 à Clairvaux. Il est parmi les quatre monastères qui vont devoir créer des filiations. Vous le savez tous, Saint Bernard a créé plus de 50% des filiations que le monde cistercien va développer pendant tout le XIIe siècle. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, il va y avoir 750 abbayes à travers 11 pays européens. Et plus de 50% de ces abbayes seront cisterciennes, seront bernardines. Et ce Saint Bernard, eh bien, il veut appliquer la règle de Saint Benoît à la lettre. Et pour le vin, il est un petit peu plus... Vous savez que Saint Bernard est un personnage absolument extraordinaire, mais il est évident pas forcément marrant tous les jours. Et il avait sans doute une rigueur très considérable. Et lui, il était un peu plus rigide que Saint Benoît avec sa fameuse émine de vin. Et Saint Bernard pensait qu'il ne fallait pas effectivement toucher au vin, car si parfois... D'ailleurs, il a fait un discours pour dire qu'un de ses moines qui était mort, eh bien, avait accepté de ne boire jamais de vin et qu'il ira au paradis plus rapidement que les autres. En fait, si vous voulez, Saint Bernard, dans sa rigueur, avait cette volonté que le vin ne soit pas considéré comme quelque chose d'agréable. Il n'en reste pas moins vrai, et c'est le paradoxe de Saint Bernard. C'est le grand paradoxe de Saint Bernard. C'est que sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur le plan commercial, il a accepté toutes les révolutions. Il a accepté toutes les promotions. Et la première vigne de Clairvaux a été plantée. Alors, je vois que, effectivement, c'est formidable. Mais voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. S'il y a un rapport entre les photos et ce que je dis, ben, c'est encore mieux. Donc Clairvaux s'implante, vous le savez, avec ses 30 hectares à l'intérieur de 3 km de mur, avec une seule porte. Et cette photo de Clairvaux, ce n'est pas la photo de Clairvaux du temps de Saint-Bernard. Le temps de Saint-Bernard, c'est la partie qui est là-bas. Mais, et vous y voyez dramatiquement ce Clairvaux qu'on veut fermer maintenant, alors qu'effectivement, contrairement à tout ce qui se raconte, l'abbaye, la prison ne pose aucun problème. Mais sauf qu'il y a des... Enfin, je ne vais pas dire pourquoi les manigances politiques voudraient qu'effectivement on ferme Clairvaux. Et Clairvaux, vous voyez en particulier... la partie culturelle du Clairvaux d'aujourd'hui, puis la partie pénitentiaire du Clairvaux d'aujourd'hui, et ce double Clairvaux, vous l'avez lu dans les journaux. Puis je ne vais pas vous le raconter, mais vous avez compris que c'est ce qui fait la spécificité considérable de Clairvaux. C'est-à-dire le lieu où, pendant 9 siècles, on a été enfermé. Alors, pas les mêmes enfermements, l'enfermement monastique, l'enfermement carcéral, mais ça n'existe nulle part ailleurs au monde qui a un lieu où ces deux choses cohabitent encore. Et finalement, pour faire un centre culturel de grande qualité, c'est évidemment un thème fantastique. Alors, je vais revenir à Clairvaux, à notre abbé. Je ne vais pas me laisser emporter par la réalité d'aujourd'hui. Saint-Bernard, donc, implante sa première vigne au coteau qui est là, ici, qui a été boisé depuis. Et cette première vigne, il y a une légende qui montre que, je pense que c'est la photo suivante, peut-être, ou si c'est la photo avant. Ah ben non, c'était la photo avant. C'était la photo avant, et il y a une légende qui dit que un petit frère, qui s'appelait Chrétien, avait planté une vigne sur la montagne, près de Clairvaux, et que les frères de Saint-Bernard lui avaient dit, écoute, tu prends des initiatives absolument inimaginables, il n'y a pas de raison. Et Saint-Bernard a pris parti en faveur du petit moine, alors que tout le reste de la communauté lui avait dit « c'est pas bien, tu n'as pas obéi à l'ordre du père abbé ». Eh bien, ça prouve que Saint-Bernard avait sans doute de la mansuétude, et notamment qu'il était capable de faire un miracle, et qui consistait à accepter qu'une vigne soit quasiment sous ses yeux. Alors, Clairvaux a fait son premier domaine très rapidement. Et le premier domaine de Clairvaux s'est constitué pendant la durée de vie de Saint-Bernard. Saint-Bernard est mort en 1153, c'est-à-dire qu'il a vécu pendant la première moitié du XIIe siècle. Et à cette époque-là, il y avait 300 moines à Clairvaux, 500 convers, des salariés, des visiteurs, des pauvres à la porte, environ 2 à 3000 personnes. Donc planter de la vigne en Champagne méridionale n'était pas une œuvre de pionnier, car on a vu qu'il y avait quand même eu quelques vignes qui avaient été plantées, mais ce que Saint-Bernard a surtout fait, c'est qu'il a planté des vignes dans des caves qui étaient exploitées dans les granges qui sont autour de Clairvaux. Alors quelqu'un tout à l'heure a parlé des granges, c'est vous je crois d'ailleurs, des fameuses granges de Clairvaux. Saint-Bernard a implanté des lieux d'exploitation, les cisterciens de Clairvaux ont implanté des lieux d'implantation, ça faisait partie de leur théorie de faire valoir direct. Travaillons sur place dans des lieux adaptés à la région. Et c'est pour ça qu'il y avait des granges viticoles, des granges agricoles, des granges forestières, des granges sidérurgiques. Et il y eut un certain nombre de granges systématiquement viticoles. Cela dit, la première des granges qu'on retrouve, enfin des granges, des caves, pardon, que l'on retrouve dans les archives, dès 1143, c'est la cave d'Urville, qui est sans doute en photo là. Elle n'est pas bien grande, mais on sait aujourd'hui qu'elle était une cave issue de l'abbaye de Clairvaux. Vous savez tous à qui elle appartient, c'est pas la peine que je vous le dise. Et 3 habitants d'Urville avaient abandonné en 1143 une terre située au lieu-dit Bocarville, et une femme y joignit une vigne au Val Gondrin. Et parmi les granges qui ont été implantées à Clairvaux à cette époque-là pour pouvoir développer une agriculture considérable, eh bien, il y en a une qu'il faut citer particulièrement. Je crois qu'il y a un croquis peut-être après sur... Oui, c'est celle-là. Il y aura peut-être un coquille après. Il faut citer quand même la grange de Fraville. Il faut citer Fraville pourquoi ? parce que Fraville est la grange implantée par Saint Bernard en 1118. Je vous ai dit qu'elle avait, Saint Bernard était arrivé en 1115. 3 ans après son arrivée à Clairvaux, sur la route de Clairvaux à Champignolles, sur le territoire d'Arconville, enfin tout le monde connaît plus ou moins, hein, j'imagine, ici dans la région, Saint Bernard implante Fraville. Je ne suis pas sûr que Fraville ait gardé une qualité esthétique majeure. Il n'en reste pas moins vrai que il y a 750 abbayes cisterciennes dans l'Europe. Il y a 1000 abbayes de femmes. Pas loin de 2000 abbayes. Chacune de ces abbayes a eu en moyenne 20 granges. Il y a 40 000 granges en Europe, cisterciennes. La toute première de toutes ces 40 000 granges, c'est Fraville. Donc tout est né dans cette grange. À partir de... C'est la première.
Elle est toujours debout.
Elle est toujours debout, c'est une photo. Elle est exploitée. Elle est encore exploitée. Pour y aller, c'est un peu difficile. Parce que le chemin, soit que vous veniez d'Arconville, soit que vous veniez de Champignol, je vous garantis qu'il faut mieux avoir une voiture un peu solide. Il n'en reste pas moins vrai. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle existe toujours. La photo, elle date d'il y a 2 ou 3 ans. Donc, hommage. Hommage à Fraville. Mais le site majeur du vignoble de Clairvaux, au temps de Bernard de Clairvaux, était le cellier de Morval, à proximité immédiate de la commune de Barreville. Molem y avait possession depuis 1076 et donna, parce que c'était la coutume, on se donne des cadeaux entre monastères, donna une première vigne à l'abbaye de Clairvaux en 1143. Et après la mort de Saint Bernard, les dons vont. Voilà, vous avez ici Morval, c'est parfait. C'est juste derrière Barreville quand vous montez vers Champignol. Il y a un moment, il y a des épingles à cheveux. Eh bien, dans le creux du vallon, il y avait là une grange aussi belle que celle dont on parlera tout à l'heure, qui est celle du cellier de Colombilsec. C'était aussi important et aussi beau. Et Clairvaux va mettre la main sur tout Barreville. Il récupérera une mouvance du fief en 1197. En 1248, il achètera des vignes qui venaient du chapitre de Saint-Maclou à Bar-sur-Aube. Et je ne vais pas vous lire dans le détail tout ce qui a été fait à Barreville, parce que ça serait trop long. Ce qui est important, c'est de savoir que la surface des vignes de Clairvaux à la mort de Saint-Bernard donne des indications sur l'importance du vignoble de Morval. Grosso modo, on peut penser qu'il y avait au XVIe siècle la même chose qu'au XIIe siècle, soit 926 hommes de vigne, alors qu'il n'y avait plus, il y en avait encore 801 en 1736, à la veille de la Révolution. L'homme de vigne, vous savez que c'est ce qu'un homme fait en une journée, c'est la surface de vigne correspondant au travail quotidien d'un vigneron. Dans nos pays, l'homme de vigne est égal, tout le monde le sait ici, à 5,27. Je suis étonné que tout le monde ne l'ait pas crié, parce que finalement, vous vivez encore avec cette donnée. Certains vignerons utilisent encore cette unité de mesure, alors qu'on ne parle plus de pintre ni de muit, mais d'hectare à l'hectare. Et alors, quel était le rendement pour ces 926 hommes de vigne? Eh bien, on peut proposer le quart de nos rendements actuels. Alors, 926 hommes de vigne multipliés par 5,27 égale 48,8 hectares, multipliés par 2500 kilos par hectare égale 122 000 kilos de raisins, multipliés par 0,006, ça donne 732 hectolitres de vin, soit, pour mieux apprécier ce volume, environ 321 tonneaux de Bourgogne, 228 litres, ou, grosso modo, 326 muits de champagne à 224 litres de tonneaux. Le buis. 326 muits étaient produits chaque année par les moines de Clairvaux à Barreville. Ce n'est pas négligeable. Eh bien, ce domaine, eh bien, il va s'agrandir encore. Il va s'agrandir encore parce que le grand moine, le grand-père abbé, va mourir en 1153. La Cèze va survivre à Clairvaux. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après Clairvaux. Oui, on va y arriver. La thèse va continuer et Clairvaux va faire à la fois plusieurs choses. Il va avoir des relais très importants. Il va avoir un premier relais chez lui, c'est-à-dire dans la cave, dans le cellier du bâtiment des Convers que vous connaissez tous, on va implanter un grand foudre. Et puis c'est là qu'on va emmagasiner les raisins que Clairvaux produit un peu partout, enfin les moûts que Clairvaux produit un peu partout, car je ne veux pas revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, on presse évidemment le jour de la vendange. Et puis on va le faire également, ça c'est pour le cellier de bâtiment des Convers de Clairvaux. Peut-être que la photo suivante montre effectivement l'austérité des dames. Les moines de Clairvaux vont se mettre à vendre leur vin à l'intérieur d'une taverne. Et l'ordre de Clairvaux va accepter petit à petit qu'on puisse distribuer, vendre le vin dans l'abbaye. C'est une grande évolution. La rigueur d'origine disparaît petit à petit, c'est évident. Et on connaît très très bien l'emplacement de la première taverne, puisque c'est celle de l'Austérie des Dames. L'Austérie des Dames va devenir petit à petit un petit hôtel, et notamment pourquoi des dames? Parce que les hommes qui venaient visiter Clairvaux n'avaient pas le droit de pénétrer dans la clôture monastique. Il fallait donc que les femmes puissent attendre, et on les attendait. Il y avait 3 appartements, et ces 3 appartements n'ont pas eu vocation à rester pendant des siècles pour les dames qui venaient visiter Clairvaux. Ils ont vite été remplacés en taverne, et naturellement, il y avait des habitants dans la taverne qui exploitaient la dite taverne. C'est devenu finalement un bistrot, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on dégueule. Alors, on vendait le vin au bro. On vendait le vin au bro, ça je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que pendant toutes ces périodes historiques, grosso modo, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne connaissait pas les bouteilles. Alors, il y avait peut-être la photo suivante. Alors, on vendait du vin de Clairvaux également à Dijon, dans le cellier de Dijon. Certaines personnes ici connaissent peut-être ce cellier de Dijon quand on arrive par le sud. Il existe toujours. Cette photo est ancienne parce qu'il y a une partie qui a été démolie. La photo suivante va peut-être montrer quelque chose qui est intéressant aussi, parce qu'il y avait un autre lieu de vente de ce vin de Clairvaux, qui était le Petit Clairvaux à Bar-sur-Aube. C'est une cave qui avait été créée par l'abbaye de Montierandère avant que Clairvaux puisse être créé, ce qui prouve quand même que les bénédictins avaient quand même certaines caves. Et ça a été pendant très longtemps le lieu où Clairvaux vendait son vin aux foires de Champagne et ensuite jusqu'au 18e siècle aux habitants de Bar-sur-Aube. Je ne sais pas quelle est la photo suivante, si elle va être une transition pour moi. Alors, si, c'est intéressant, parce que cette photo montre quelque chose qui existe actuellement et que vous ne connaissez pas tous à l'intérieur de ce fameux cellier de Bar-sur-Aube. C'est la pressoire à roues et à perroquet qui date du XVIIIe siècle, que j'ai, à l'époque où j'en avais les moyens, de pouvoir récupérer cela avec l'association de Clairvaux. Et on l'a au village de Dailleville. C'était l'ancien pressoir banal Dailleville. Et on l'a implanté à un endroit où il y avait exactement le même au XVIIIe siècle, dans ce local qui appartenait encore aux moines de Clairvaux jusqu'à la Révolution française. Peut-être la photo suivante va me permettre la transition. Ben, cette transition, c'est celle qui rejoint ce qu'a dit tout à l'heure madame. C'est la transition qui vous permet, et ça va être dont je vais parler maintenant, c'est les autres granges viticoles de Clairvaux. Sur cette petite croquis, vous voyez les granges immédiates de Clairvaux. En fait, il y en avait plus de 40. Alors c'est là que vous voyez, par exemple, la Borde, pour ceux qui connaissent Bayel, Colombelsec, vous le connaissez, Cornet, vous connaissez peut-être à côté de Rouvre-les-Vignes, la grange de Breuil, à côté de Gessin, Beauvoir, à côté de Brienne, Sermoise, Faillot, Faillibas, Fontars, Beaumont, Champigny, tout ça, c'est tout près d'ici. Morin dans, sur le bord de la Reine, et sans compter les autres qui sont beaucoup plus loin. Donc finalement, voilà. Alors, parmi ces granges, il y en avait trois. Morval, on en a parlé, c'est Barouville. Gommeville et Colombey-Sec, on va en parler maintenant. Alors, la deuxième très grande grange que Saint-Bernard... Non, excusez-moi. Que les successeurs de Saint-Bernard ont implanté, c'est celle de Gommeville. Gommeville est située 2 kilomètres en amont de Mussy-sur-Seine. Et ça a été construit à l'emplacement d'un clou de 440 hommes de vigne, 25 hectares, acquis par donation en 1209. Et on sait peu de choses sur les raisons de cette importante donation. Ce que l'on sait, c'est que beaucoup de seigneurs donnaient des vignes avant de partir à la croisade. Et ils avaient d'ailleurs une clause, souvent, qui prévoyait que s'ils revenaient vivants de la croisade, ils récupéraient la vigne. C'est-à-dire qu'elle est mise en, elle était mise en pension, en quelque sorte. Et puis, s'ils étaient morts, eh bien, l'abbaye gardait. Alors, cette grange de Gommeville, on n'en a plus beaucoup de traces, parce qu'un des grands problèmes de notre région, c'est qu'à partir de 1350, on a quand même eu beaucoup de difficultés qui sont les suivantes, et qui ont frappé notamment les abbayes cisterciennes, comme toutes les autres activités de la région. D'abord, on a été une région où il y a eu particulièrement fortement la grande peste.
La grande peste
qui a commencé en 1350. Il faut savoir qu'en plus, les abbayes cisterciennes, c'est des lieux confinés. Les moines vivent ensemble. Alors, la propagation de la maladie... Et puis, il y a eu la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, on l'oublie trop, elle a duré 100 ans apparemment, mais c'est pas vrai. C'était des morceaux de guerre tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et entre-temps, il y avait ce qu'on appelait les écorcheurs. Et les écorcheurs, ou les troupes... qui étaient des troupes qui se vendaient au seigneur le plus offrant. Et ces écorcheurs, quand ils n'avaient rien à faire, eh bien, ils pillaient. Et qu'est-ce que c'est qu'une abbaye cistercienne, vous l'avez entendu? C'est une abbaye qui est en pleine campagne, beaucoup plus isolée que tous les autres ordres. Donc, tous ceux qui appartenaient aux abbayes cisterciennes, des granges, étaient évidemment plus faciles. Et puis après, il y a eu la guerre de religion. Ça a commencé à Vassy, en Haute-Marne. Ça s'est beaucoup développé dans notre région. Et puis après, il y a eu la guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, la vallée de la Seine et la vallée de l'Aube ont été des vallées où les troupes sont passées. Autrement dit, entre 1350 et puis quasiment le XVIIe siècle, il y a eu en permanence des destructions et des reconstructions. Et ça, eh bien, Gommeville, c'est la grange qui n'a pas résisté à ça. Il ne reste plus rien à Gommeville, mais il y a eu. Et à Gommeville, il y avait, comme je l'ai dit, 440 hommes de vignes. Et il y avait tout ce qui existait dans une grange viticole. Et quand on dit le mot grange, je voudrais insister, ce n'est pas une grange comme d'aujourd'hui. C'est un ensemble de bâtiments avec au milieu un bâtiment plus grand que les autres qui a la forme d'une grange actuelle. Mais c'est un petit monastère, une grange. Vous avez vu Fraville. Fraville, vous avez vu qu'il y avait une porte, et derrière, il y a d'autres bâtiments. Autrement dit, ce qu'on appelle grange en langage cistercien, ça veut dire plutôt hameau clos. Oui. C'est un hameau clos. Une unité d'exploitation close. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Gommeville a été un des trois grands celliers cisterciens. Et des thèses sur Gommeville ont été faites. J'en suis à 48 minutes si je veux passer de mon temps. Il faut absolument que je gomme Gommeville un petit peu. Voilà. À noter que Gommeville existe toujours sur le plan viticole et que les vignes de Gommeville donnent toujours un vin réputé et sont en partie classées en AOC, Bourgogne, Crémant de Bourgogne, ce qui les rend très malheureux parce qu'ils sont à 100 mètres des premières vignes en AOC Champagne. Voilà. Alors, on va arriver au grand cellier. Le grand cellier de Clairvaux, c'est Colombey-Sec. C'est un trésor architectural de l'héritage clairvalien et un témoignage exceptionnel de la puissance économique de Clairvaux, heureusement conservé et toujours utilisé comme exploitation viticole. Isolée au cœur de ces terres, cette grange vinicole est située, comme tout le monde le sait, à 11 km de Clairvaux. Elle est baignée par le Landion et elle a fait l'objet de magnifiques études historiques, et notamment de Patrick Corbet, de Benoît Chauvin. Tout commence en 1194, c'est-à-dire à la frontière entre le XIIe et le XIIIe siècle, par l'achat par l'abbaye à la Maison Dieu de Bar-sur-Aube, c'est-à-dire à l'hôpital de Bar-sur-Aube, d'un important ensemble de terres. Les moines étaient suffisamment riches pour acheter partout. Dès que c'était possible, ils achetaient. Et ils ont acheté un ensemble de maisons de terres, de vignes, de prés, de varennes et même de bois, et même de dîmes à Colombey-le-Sec. Il y en avait également à Colombey-la-Fosse et à Rouvres-les-Vignes. Le domaine s'agrandit pendant 60 années grâce à des dons et des achats. Dans les 145 actes du cartulaire de Clairvaux, on peut les retrouver. Le magnifique cellier fut immédiatement entrepris après l'acquisition des terres pour être terminé en 1202, et à trois nefs et six travées, avec de beaux piliers, peut-être voilà, de beaux piliers autogones qui développent une surface de 571 mètres de cave, plus vaste que celui de Clos-Vougeot, qui n'a que 432 mètres carrés. Il donne son nom au site actuel devenu le cellier. Un adage local de l'époque disait qu'une voiture à chevaux, en fil, pouvait y tourner facilement. Son architecture de voûte à croisée d'ogives rappelle évidemment celle du cellier du réfectoire du bâtiment des Convers de Clairvaux et du cellier de Dijon. Volonté clairement apparente d'imposer une même esthétique à tous les bâtiments cisterciens. Au-dessus de la halle, il y a le pressoir qui est disparu aujourd'hui et qui était accessible directement par les charrois des vendanges. Le mou du pressoir passait directement dans les cuves par de belles goulottes en pierre qui sont toujours existantes. L'actuelle construction en élévation abrite l'habitation et une chapelle à porte-bois du XVIe siècle. Le domaine viticole d'origine regroupait 957 hommes de vigne, dont 553 autour du cellier et le reste à Voigny. Les moines exploitèrent directement jusqu'à la Révolution la partie viticole du domaine, mais comme dans toutes les granges, moulins et forges, les convers furent très vite remplacés par des salariés. Peut-être la photo suivante, je ne sais plus. Non, ça viendra. Mais ça, on peut la garder, parce que ça concerne le cellier. Par des salariés. Et on peut penser que les cisterciens, à cette époque-là, étaient parmi les premiers employeurs à avoir des salariés. Et que le salariat s'est beaucoup développé chez les cisterciens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un mal? En tout cas, c'est une donnée. Après le XVe siècle, les terres agricoles furent l'objet de baux gérés par un amodiateur, c'est-à-dire un moine qui vivait sur place. En 1791, la propriété fut démantelée comme bien national et les bâtiments et les vignes furent vendus séparément. La surface plantée était alors de 177 hectares qui furent dispersés entre des viticulteurs locaux. Et d'ailleurs, si je vous disais les noms des acquéreurs de ces viticulteurs locaux à la Révolution, parce qu'il n'y a pas de secret, ben vous avez des noms que vous reconnaîtriez, Maupas, Chameroy, Lebeuf, Brivois. C'est bien des noms de la région. Hein. À ce stade, il me semble intéressant de citer Patrick Corbet. Pourquoi c'est conservé? Eh bien, c'est la qualité esthétique du bâtiment qui a peut-être été quand même à l'origine de sa non-démolition. Il y a quand même, à l'époque de la Révolution, un certain nombre de personnes qui se sont émues à l'idée qu'on démolisse le cellier de Colombey-le-Sec. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc Clairvaux est à la tête de ces trois très grandes granges, est à la tête de ces domaines. Je vous dirai tout à l'heure ce que ça représente exactement. Mais il fait ça parallèlement à tout ce qui se fait dans le monde cistercien. Et je pense qu'on ne peut pas faire un exposé sur Clairvaux sans dire en trois minutes que Citeaux avait donné l'exemple et qu'il avait donné l'exemple d'une manière magnifique. Il ne faut pas croire que Clairvaux est unique. Clairvaux avait même un chef d'ordre qui faisait au moins aussi bien que lui et qui a eu la chance d'avoir peut-être mieux que Clairvaux des possibilités commerciales qui ont abouti à des crues d'une valeur aujourd'hui internationale. Bon, je vais m'amuser simplement. Hein. Moret-Saint-Denis, Musigny, Chambol, Vosne-Romanée, Alloch-Scorton, 50 hectares de Claude Vougeot, Pommard en 1207, Le Clos de la Perrière à Fixin, Savigny en 1250, c'est quand même une belle litanie. Hein, une belle litanie que les cisterciens de Citeaux ont quand même mis en œuvre en même temps qu'ils faisaient leur prière. Et les abbayes démoniales cisterciennes faisaient autant. Le vin le plus cher du monde, aujourd'hui sans doute, c'est le Clos du Tarn, Ben, le clos du Tarn, c'est une grange d'une abbaye cistercienne. Hein. Et si, vous ne pouvez même pas visiter. Aller visiter, vouloir visiter, voir une bouteille du clos du Tarn, c'est absolument impossible. Les 5 hectares du clos du Tarn, clos de mur, l'étaient déjà au XIIe siècle. Il faut citer aussi Pontigny, l'autre fille majeure, voisine de Clairvaux. Eh bien, Claudine, construite au bord du Serein, l'obligation d'avoir des vignes n'était pas possible, mais il y avait Chablis pas loin. Et finalement, eh bien, les moines cisterciens suffisamment riches et suffisamment prodigues ont acheté un certain nombre de vignes autour de Chablis et ont fabriqué 15 granges au XIIe siècle, avec une activité viticole pour la plupart d'entre elles. Et aujourd'hui encore, les 6 appâts de vignes du domaine de Pontigny à Chablis, eh bien, ce sont c'est la transmission qui s'est faite jusqu'à aujourd'hui des abbayes cisterciennes. Et tout près d'ici, eh bien, l'abbaye de Mort, hein, et son vignoble magnifiquement implanté sur des coteaux jurassiques de Seine-sur-Ours aurait dû traverser les siècles pour en témoigner. Bon, la guerre de 100 ans, c'est la guerre de 100 ans dont j'ai parlé tout à l'heure, et la guerre de 30 ans qui ont été à l'origine de la dévastation, des destructions et des pillages. Puis ça s'est terminé à la Révolution française. En 1872, un visiteur relate que les religieux conservaient encore 600 pièces de vin dans différentes caves du logement de l'abbé commendataire. En 1772, excusez-moi. Lors de la vente des biens nationaux, en 1791, les actifs que les divers moines n'avaient pas vendus donnent quelques renseignements utiles. Il restait à Celle les bâtiments d'un pressoir, d'une cave, 12 arpents de vigne, et également des vignes à Buxeuil, 2 arpents, 8 arpents à Chervet. La documentation manque pour prouver l'importance de ce vignoble. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, car j'ai retrouvé certains éléments sur ce sujet.
Ah, moi, je suis un petit peu
en retard là. Oui, j'arrive exactement, pile. D'autres vignobles, excusez-moi, ça tombe admirable. Je lis, d'autres vignobles, dans d'autres abbayes cisterciennes, filles de Clairvaux, ont traversé les siècles. Et je cite Valmagne. Voilà. Valmagne et son abbatiale remplis de foudre à vin en Languedoc et font froide, et sa grande grange fortifiée, peut-être que vous font froide après, voilà, en plein milieu des Causses, l'abbaye de Fontfroide que vous connaissez peut-être, eh bien aujourd'hui, il y a encore 30 hectares de vignes, hein, et qu'on vend du vin de Fontfroide comme on vend du vin de Valmagne. Et je vous signale que le Languedoc a fait des progrès, vous le savez mieux que moi, vous êtes professionnel, a fait des progrès inimaginables dans la manière de vinifier, et les vins de Valmagne et les vins de Fontfroide, je vous jure, c'est formidable.
Ils sont à vendre dans l'abbaye.
Et ils sont d'ailleurs à vendre dans les abbayes, par les successeurs. Par les successeurs. C'est-à-dire que c'est comme à Colombey-le-Sec. Hein. D'ailleurs, je vous signale que je les vends à l'abbaye de Clairvaux. Une mention spéciale doit être donnée à l'abbaye d'Ederbach. C'est la suivante. Alors, ça, c'est une grange de Fontfroide. Encore. Ça, c'est Eberbach, en Allemagne. Alors, Eberbach, c'est incroyable. C'est une grande fille de Clairvaux, avec ses vendances tardives, que vous connaissez presque tous sans doute, qui donnait 50% des revenus de l'abbaye. Fille de Clairvaux, créée en 1136 à la demande de l'archevêque de Mayence, visitée par Bernard de Clairvaux lui-même, importatrice pour cette raison du pinot noir que Saint-Bernard transportait avec lui. Eh bien, tout ça s'est développé sur les terrasses au-dessus du Rhin. Et aujourd'hui, grosso modo, je peux vous dire que les moines avaient leur propre bateau, parce qu'ils allaient vendre leur vin à Cologne. Ils avaient même obtenu, parce que c'était quand même des sacrés malins, dispensés de taxes sous prétexte qu'ils étaient des religieux. Et du coup, ils vendaient leur vin un peu moins cher que le vin des concurrents. Et il y a eu des révoltes de paysans qui sont venus casser les foudres de l'abbaye d'Eberbach au XVIIIe siècle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui encore, Eberbach est un des grands crus du vin allemand, et avec un vin blanc absolument délicieux. Et je vous signale que tout ça, c'est des héritages de Clairvaux. Eberbach, c'est un pinot noir amené par Saint-Bernard le long du Rhin. Voilà. Alors, après Clairvaux, ben, les moines n'étaient plus les seuls... Alors, parallèlement à Clairvaux, excusez-moi, il y avait quand même d'autres viticulteurs dans la région. Il ne faut pas croire qu'ils avaient le monopole. Il y avait d'abord d'autres abbayes. Et ça vous intéresse ici dans la région, parce qu'une abbaye très importante, bénédictine, était celle de Montier-Ramé. Et l'abbaye de Montier-Ramé, à côté de... ben vous savez où c'est, Montier-Ramé, eh bien, avait quasiment complètement colonisé Fravaux. la commune de Fravaux. La seigneurie de Fravaux était rattachée à Montiramé depuis 1178, et en 1200, l'abbaye a échangé des vignes avec la commune de Bar-sur-Aube, et notamment avec le Mont-Saint-Germain. Et en 1229, eh bien, un chanoine de Vendeuvre donna à l'abbaye une pièce de vigne importante, et au XVIe siècle, Montiramé possédait encore, un pressoir, une pièce de vigne de 200 hommes. L'abbaye de Montiramé est présente également à Spoix, dont Eudes de Villers, en 218, possédait une vigne à Ville-sur-Arse. L'abbaye reçut une vigne en 1263, il rachetait une petite vigne de 8 tomes en 1368, et il possédait une vigne de 100 tomes au XVIe siècle. Donc à Ville-sur-Arse, il y avait 3 vignes qui appartenaient à l'abbaye de Montiramé. Montiramé qui subsista jusqu'à la Révolution française. L'exploitation des archives qui reste à faire, et je sais que quelqu'un le fait, et je me fais tout petit devant celui qui doit petit à petit découvrir beaucoup plus de choses que moi, eh bien, l'exploitation des archives reste à faire, mais il y a quand même quelque chose qui sont déjà connues, notamment en regardant le Rosereau. J'imagine que vous connaissez le Rosereau. Ville-sur-Arse est citée quand même à plusieurs reprises. La dîme au vin était plus importante que la dîme au grain, donc ça prouve qu'il y a plus de vignes que de céréales. Et cette dîme, elle était versée à l'abbaye de Montiramé. Donc Ville-sur-Arse dépendait aussi pour ses vignes de Montiramé. 2/3 pour l'abbaye, 1/3 pour le curé. Et il y a eu un grand conflit, on le cite, en 1246. Ça peut vous amuser quand même qu'en 1246, on s'est battu, à coup de documents juridiques, évidemment, entre Pierre de Fontette, qui était le patron de l'époque de Montiramé, et l'abbaye de Mort, à propos d'une ville dans un lieu-dit qui s'appelle le Val-Adelin. Existe-t-il à Ville-sur-Arse un Val-Adelin? Oui. Eh bien, voyez, le Val-Adelin, en 1246, a fait l'objet d'une bataille juridique entre le seigneur de Ville-sur-Arse et l'abbaye de Mort. À Chervais, eh bien, on a découvert quelque chose quand même qui prouve qu'il y avait beaucoup de vignes. La fête de la translation des reliques qui existaient à Chervais ont été transportées à Montiramé. Et cette fête était toujours, depuis le XIIe siècle, le 11 octobre. Alors le 11 octobre, bien évidemment, ça n'allait pas aux habitants de Chervais. Et l'évêque de Langres est intervenu en 1745, il a mis du temps, pour transférer la date de la fête au 20 novembre, et c'est marqué dans les actes, afin que les habitants de Chervais puissent faire leur vendange. Donc, vous voyez, on a la trace précise, effectivement, de ces choses. Bertignol, en 1080, avant Clairvaux, eh bien, Adeline de Bar avait donné à Molème, l'abbaye de Molème, la famille dont j'ai parlé tout à l'heure pour Robert de Molème, eh bien, Robert de Molème, 1075-1080, c'est donc après, c'est Robert de Molème qui a reçu d'une habitante d'Adeline de Bar qui habitait Bertignol une vigne en échange de prières éternelles. Landreville, en 1279, l'abbaye de Potières s'est engagée à livrer chaque année à Mort 3 muits et demi en bon vin lors des vendanges. Voilà. Si on fouille, et on fouillera encore les archives, on découvrira que hors de Clairvaux et hors du territoire de Clairvaux, puisque là c'est plutôt le territoire de Montiramé, eh bien, il y avait également des vignes, mais elles étaient quand même, une fois de plus, essentiellement des abbayes, donc monastiques. Je vais poursuivre pendant un petit quart d'heure quand même. Hein, parce que je voudrais. Je prends du temps. Moi, ça me va. Mais
je vous ai préparé un petit verre d'eau. Hein, si
oui, ça va. Ça va. Au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution, quelle était la réputation de ce vignoble régional majoritairement issu de Clairvaux? Eh bien, on trouve difficilement les réponses dans les archives. Du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, faute de nom de terroir, et ça c'est très important, je vais insister sur ce point. Faute de nom de terroir, on disait le vin de Bar-sur-Aube et rien d'autre. Et ce vin, alors que d'ailleurs on disait Bourgogne, on disait Bordeaux, on disait ceci, etc. Et ce vin clairet ou vermeil eut longtemps bonne réputation, c'est ça qui est dommage. Lors de ces bases, quelques références. En 1380, le vin de Bar-sur-Aube était servi à l'hôtel du roi Charles VI. En 1386, on le trouve sur la liste des assas du Chuc de Bourgogne. pour ses résidences de Lille, Gand, Bruges et Arras. En 1385, Marguerite de Flandre en achète lors de son passage à la foire de Corbeil. En 1424, le règlement de police de Liège fait état de vin de Beaune, d'Alsace et de Bar-sur-Aube. Et un poète au XVe siècle dit les vins d'Aï, ce qui était le plus célèbre à l'époque en France, les vins d'Aï, Tournon et d'Auxerrois, vin rouge. Hein. Bar-sur-Aube suit bien la matière et d'Épernay, on peut en avoir cure. C'est quand même, c'était vraiment un vin. Et puis vous connaissez tous la légende des vins d'Hérissé, implantés grâce aux maçons dans la cour de Versailles. Donc il y avait grande réputation, mais pas une mémorisation, si on veut résumer. Pourtant, cette bonne réputation va disparaître alors que le vignoble va se développer jusqu'à la crise du phylloxéra fin 19e, au point d'engaillir le paysage, comme les descriptions des voyageurs l'attestent. Paradoxalement, sans laisser de traces positives dans l'histoire de la vigne et des vignobles en France, on peut constater dans la Bible écrite en 1959 et reprise en 70 par Roger Dion, qui est la grande Bible des vins, eh bien, effectivement, il ne cite quasiment pas le vin de cette région. Alors pourquoi ? Sans doute la trop grande présence de l'arbane. Certes, c'était un plan donnant un vin très fin. Quand on pouvait en faire une récolte, on en faisait 2 tonnes à l'hectare et il suffisait qu'il souffle un peu froid pour que ça gèle. L'arbane gelait dès les premiers froids et donnait des rendements de misère. Quand les vignerons locaux voulurent corriger le tir, eh bien, manque de chance, ils ont choisi de faire du gamay. Et ben, cette fois, le gamay était trop productif pour du vin peu apprécié. Et ce fut une erreur, hélas, que nos très grands ancêtres portent encore. Il faut savoir qu'en 1880, il y avait encore 20 000 hectares de vignes dans l'Aube. C'était surtout dans notre région, alors que la Marne en avait exactement le même montant. Mais 75% de notre vignoble était en gamay. La deuxième raison, c'est que l'effet du Marnais, c'est-à-dire que le développement du champagne démarrant en 19e siècle, je ne vais pas vous raconter tout ce que vous savez sur 1911, enfin, les Marnais ont fait tout ce qu'il fallait pour que le vin de l'Aube ne soit qu'un vin de... que les raisins ne soient que des raisins de pays producteurs et que ce soit simplement des fournisseurs de raisins et non pas des producteurs de vin. Donc finalement, le troisième point, c'est l'absence étonnante d'historiens, notamment pour étudier les archives. Finalement, toute cette grande histoire de Clairvaux, qui a été à un certain moment, finalement, parmi les plus grands vignobles qui existent en France, eh bien, c'est aujourd'hui que les premiers historiens se mettent à les étudier. Question. Que représentait le vignoble de Clairvaux à la fin du XIIIe siècle? C'est quand même très important de le savoir. À la veille de la guerre de Cent Ans et de la Grande Peste, Clairvaux possédait, selon Robert Fossier, alors c'est l'historien qui a le plus travaillé sur ce sujet, une superficie de 4422 hommes, soit 230 hectares de vignes, ce qui lui aurait donné 7 à 8 000 hectolitres, soit grosso modo 34 hectolitres par hectare. C'est mon seul point de désaccord avec lui. À mon avis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est trop important. Effectivement, quand on connaît les rendements de ces époques et quand on fait les comparaisons, on arrive à 15 hectolitres par hectare. À comparer, et finalement, avec 230 hectares produisant 2500 kg par hectare, eh bien, on arrive simplement à... je vais vous le dire, je l'ai noté quelque part. On arrive à 8000 hectolitres de production par an. Voilà. Il faut savoir qu'il faut comparer les productions à travers les âges. Du temps des Romains, 10 hectolitres par hectare. Début 16e, après Clairvaux, 15 hectolitres par hectare. Fin 18e siècle, 20 hectolitres par hectare. 60 hectolitres par hectare dans l'ensemble du vignoble français d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a plus que triplé depuis le 18e siècle. Il ne faut pas l'oublier. Autre question. Comment les cisterciens cultivaient leurs vignes et faisaient leur vin? On peut essayer de comprendre en cumulant les informations recueillies dans les archives de Clairvaux et de ses filles. Toutes les abbayes de l'ordre partageaient leur savoir technique dans l'esprit de la charte de charité, donc on peut généraliser. Les plans étaient surtout des... Alors là, je vais peut-être un peu lire, parce que je crois que ça passionne tout le monde, j'espère, qu'on sache comment ils cultivaient. Les plans étaient surtout des variétés de l'Allobrogica, C'est l'ancêtre du pinot, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il est résistant au froid, surtout, et on trouvait toutes les variétés de ce raisin, de ce raisin noir à jus blanc, pinot fin, pinot gris, pinot bureau, pinot meunier. C'était le cépage favori des moines. Mais on cultivait aussi l'arbane, splendide arbane, hélas, un plant qu'on ne trouvait pratiquement que dans la région de Marsureau et qui a quasiment disparu dans les années 1950. Excellent vin blanc, sec, très bouqueté. On dit que c'est une variété du Tokay ramenée par Saint-Bernard de l'un de ses voyages en Rhénanie. À la fin du 19e siècle, les premiers fabricants de champagne de la région de Bar-sur-Aube, car il y en a eu, à partir de 1850, champanisaient de l'arbane qui donne une mousse très fine. C'était leur malheur, car ce plant est d'une très grande fragilité. Son rendement, sa maturité est tardive, il craint les gelées de printemps, son rendement est le quart du rendement du pinot. On vendangeait de faibles quantités une année sur deux, d'où la misère des vignerons locaux. Pourtant, en 1911, l'argument des vignerons au bois pour garder de la haussée champagne s'ouvrait par cette phrase, une tradition constante et universellement admise, attribue aux moines de la Bique Thervaux les premières opérations de vin de champagne avec leur cépage d'arbane. Naturellement, le chardonnay était présent aussi, mais aussi des plants d'hiver, parfois limités à une seule commune, ainsi le Troyen, le Gouet et le trop généreux Gamay pour les vins rouges et le Melon, le Mélier pour les raisins blancs. Le greffage permettait de nouvelles variétés. Les plantations s'effectuaient par marcottage, d'où les paysages de vignes en foule qui survivront jusqu'à la replantation en ligne après la crise du phylloxéra. Tous les jeunes d'aujourd'hui, quand ils regardent des vignes, ils ne se rendent pas compte que c'est un paysage tout à fait récent, moins d'un siècle, enfin un siècle grosso modo. Il faut savoir, quand même les images le montrent, eh bien, le marcottage avait quand même créé des vergers, en quelque sorte, beaucoup plus que ça. Les cisterciens généralisèrent la pratique du pressurage le jour même de la vendange. Les pressoirs étaient installés dans les halles au-dessus des cuvettes, des cuveries des celliers, comme à Colombelsec, avec des entrées et des sorties séparées permettant des convoyages sans manœuvre. On élevait le vin dans des caves très isolées, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, des soupiraux étroits, une voûte de 66 cm de terre au-dessus de la voûte, des portes avec sas. La cuvaison était courte avec soutirage à 3/4 grappé et 1/4 de grappe. Collage au vin au blanc d'œuf, sucrage au miel, brûlage de copeaux de bois pour soufrer les tonneaux. Écologistes, les cisterciens recommandaient de conserver la qualité du vin en ne fumant jamais les vignes. Le chef de chai du célèbre clos d'Audenise, Clos Vougeot, affirmait « J'en ai goûté qui ne sont point potables, tout à fait tournés à force de fumier et de terreau. En cherchant la quantité, on parviendra... » Je répète ce qu'il a dit. « En cherchant la quantité, on parviendra à faire perdre le commerce des vins de Bourgogne. » Le même d'Audenise recommandait une taille courte pour maîtriser le rendement et le relevage pour ensoleiller les raisins. Vous voyez que les cisterciens étaient déjà assez bons vignerons. Le vin des cisterciens était-il bon ? Difficile de répondre à cette question, puisqu'on n'était pas là pour goûter. Bien qu'on ait la tendance à toujours idéaliser le passé, il devait y avoir une grande diversité de qualités et même des vins mauvais, d'où la pratique du miellage pour corriger les torboyaux. En fait, il devait y avoir une grande différence entre le vin de l'autoconsommation et le vin commercialisé. Les différences de prix de vente, à mon avis, devaient traduire une réelle différence de qualité. Et on a même un document du XIIIe siècle qui concerne l'Île-de-France. Et nous, on était dans la zone qu'on appelait l'Île-de-France. Donc on peut se rattacher à ce prix. Le vin de Bar-sur-Aube devait vraisemblablement se vendre de la manière suivante. Le Fromentel, c'est un pinot bureau. 12 sous le buis. Le Morillon, c'est l'ancêtre du Pinot, 9 sous le buis. Et le Goète, qui était un vin gros noir, 6 sous le buis. Donc, c'était de 6 à 12 selon la qualité. Il convient de savoir enfin que toute la production de vin était consommée dans l'année, chaque récolte remplaçant la précédente. On le verra tout à l'heure, la notion de vin de garde n'est arrivée qu'après 1750. Alors, la grande question. Les moines de Clairvaux connaissaient-ils les vins effervescents ? Les vignerons au bois de la fin du XIXe siècle, misérables au cœur d'un vignoble en perdition, affirmaient volontiers que Saint-Bernard avait non seulement introduit la vigne dans la région, mais inventé le champagne. Ils pensaient que cela serait un argument au moment où, en 1911, on leur contestait abusivement d'être champenois à part entière. Tout cela est évidemment faux. Personne n'a inventé le champagne. Ce n'est pas ici que je vais dire le contraire. Car tous les vins de Clairvaux, comme tous ceux du reste de la Champagne, sont naturellement effervescents. Le vin de la région de Bar-sur-Aube, comme celui des collines de la montagne de Reims, et pour des raisons géologiques et climatiques de même nature, connaissent une prise de mousse naturelle liée à une seconde fermentation. Je m'excuse de dire tout ça devant vous, parce que vous savez ça bien mieux que moi. Spontanée, qui termine une première fermentation insuffisante de vin tranquille, en raison du climat froid des automnes champenois. Saint-Evremont, quand même, c'est très important de le rappeler, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de lettres, rapporte qu'au mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne, en 1498, le vin de notre région y fut servi et il pétillait dans les verres et produisait une mousse lorsqu'on le versait en carafe. Je dis bien en carafe. Tous les champenois connaissaient le phénomène depuis longtemps, mais sans pouvoir le maîtriser, notamment faute de disposer de bouteilles au cul suffisamment solide pour résister à la pression du vin effervescent et au col, plus que la bouteille elle-même, suffisamment résistant à la mise en place d'un bouchon de liège compressé. Les bouteilles adaptées, que ce soit pour les Rémois que pour notre région, paradoxalement, furent anglaises. Elles commencèrent à être fabriquées en 1670. Et 1670, c'est la date à laquelle M. Dom Pérignon est rentré à l'abbaye d'Auviers. Et c'est comme ça qu'on fait croire que M. Dom Pérignon a inventé, effectivement, la possibilité de maîtriser le champagne. Il a simplement importé des bouteilles qui permettaient de maîtriser le champagne. Et ces bouteilles étaient assez curieusement anglaises. Les Anglais, d'ailleurs, entre parenthèses, avaient, on le sait maintenant, connu aussi, à cette époque-là, la capacité d'augmenter les effervescents en rajoutant un peu de sucre, ce que Dom Pérignon a fait également. Alors, Dom Pérignon, il ne faut pas lui jeter la pierre, il a fait des choses importantes, on va y arriver. Mais la date la plus importante, et paradoxalement, alors, la mise en bouteille est arrivée, et d'ailleurs, entre parenthèses, ça nous a permis de faire du champagne partout en Champagne, mais ça a permis surtout quelque chose de très important, c'est que partout ailleurs, eh bien, on a commencé à faire des vins de garde. Parce que jusqu'à une certaine époque, on achetait les vins en muit ou en fût. Et on allait avec son bro. Moi, je me souviens encore, même, quand j'étais gamin. Je suis le plus vieux de la salle, sans doute, ici. Quand j'étais jeune à Bar-sur-Aube, tous les gens achetaient des petits tonneaux et on allait avec son bro chercher chez le marchand de vin. Le vin de garde est arrivé quand on a eu le bouchon, mais surtout quand on a eu le tire-bouchon. Et le tire-bouchon, parce qu'un bouchon, c'est bien beau. Vous le mettez dans une bouteille. Si vous n'avez pas tiré, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les vins de garde, 1750, l'invention du tire-bouchon par un Anglais. Par un Anglais. Qui ont inventé la bouteille de champagne et le tire-bouchon pour les vins de garde. Rendons toutefois à Dom Pérignon ce qui lui revient. Le célèbre cellerier bénédictin améliora la technique volontaire de prise de mousse par l'adjonction de sucre fin. Il suggéra la pratique de l'assemblage des crus et des récoltes pour équilibrer les cuvées et aussi mieux les vendre. Ça, c'est quand même très important. Il adopta la bouteille champenoise qui avait été donnée par les Anglais. Il introduisit le bouchon de liège anglais qui remplaça le broclet maintenu au goulot par une ficelle de chanvre. Il préconisa la flûte plutôt que la coupe pour mieux admirer les bulles. Et pour la première fois, effectivement, grâce à Dom Pérignon, un vin devenait un vin de plaisir que Voltaire emmenait dans ses pique-niques avec Madame Duchâtelet dans les bois de Ciré-sur-Blaise, à deux pas de Clairvaux. Il faut donc rendre hommage aux moines de Clairvaux et aux bénédictins Pérignon qui nous ont donné à boire le vin que nous connaissons aujourd'hui et qui fait la gloire de notre région. Ma conclusion, elle est un tout petit peu personnel, si vous permettez. Ma perception, c'est que le rôle fondateur de Clairvaux pour le vignoble au bois plaide quand même pour que le projet culturel de la région de la Côte des Bars, qui porte un nom maintenant, puisque enfin il y a un nom dans la région, Côte des Bars, j'en sais quelque chose, Eh bien, ce nom, il faut le porter davantage encore à ce qu'il est connu aujourd'hui. Et je pense que l'alliance de l'histoire de Clairvaux et de l'histoire du vignoble fait qu'une collaboration complète devrait exister dans ce domaine. Je plaide un peu pour mon sein, excusez-moi, puisque je suis là au titre de Clairvaux. Et je me dis que c'est peut-être dommage que dans le futur grand musée sur l'histoire de Clairvaux, qui sera le musée des moines et le musée des prisonniers, puisque vous savez que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est unique au monde. Finalement, à la tire des mêmes murs, il y a cette notion d'enfermement et donc de liberté. C'est-à-dire le grand centre de réflexion sur la liberté, ça pourrait être Clairvaux. Eh bien, ça serait dommage qu'il n'y ait pas, dans cette histoire de Clairvaux, qu'on rappelait un chapitre sur la vigne et sur la vigne de Clairvaux. Je pense qu'on a la place, en tout cas un jour, de faire ce qui manque dans la région. On le fera de toute façon. C'est en tout cas quelque chose où le vignoble de Clairvaux sera présent dans l'histoire de Clairvaux. Et peut-être davantage encore, je reviens d'Allemagne où j'ai été visiter une petite ville, une petite vallée monastique où on retrouve effectivement une cave dans une abbaye cistercienne. Tous les vignerons de cette vallée y sont représentés. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est peut-être un peu tard, on aurait peut-être dû commencer plus tôt, peut-être nous à Clairvaux, mais je voudrais terminer cette petite causerie en disant le futur, ça devrait être quand même davantage Clairvaux et le vignoble local. Je vous remercie de votre attention.